Bienvenue à toutes et à tous, je suis Isabelle Beautian, romancière et scénariste de bande dessinée, et dans ce podcast, je vous donne des déconseils d'écriture. Le déconseil du jour est le suivant, show, don't tell, ou le show, don't tell, comme on dit par chez nous. Qu'est-ce que ça signifie, show, don't tell? Tout à fait littéralement traduit de l'anglais, ça veut dire que en fiction, il vaut souvent mieux montrer les choses à votre lecteur ou votre lectrice, donc to show, montrer, plutôt que les lui dire, to tell. Et pourquoi ce conseil est donné? Parce que c'est vrai que c'est souvent plus agréable en tant que lecteur ou lectrice de ressentir les choses, et puis d'avoir l'impression de les comprendre par nous-mêmes, plutôt que d'avoir l'auteur qui nous prend par la main, qui nous explique la vie et qui nous dit quoi penser. C'est toujours plus agréable, plus fun et un peu moins infantilisant. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de la caractérisation. C'est plus immersif aussi, c'est par ça que j'aurais dû commencer. On va développer ça, mais donc disais-je, c'est particulièrement vrai dans le cas de la caractérisation, donc c'est-à-dire comment décrire nos personnages, faire comprendre qui sont nos personnages. Si vous avez typiquement un héros sur un récit un peu classique d'aventure, que votre héros est très, ou votre héroïne, mettons que c'est un garçon, ce héros est très courageux, ça va être plus intéressant de le montrer en action, de montrer qui va sauver des gens, qui n'a pas peur du danger, voire qui se confronte au danger de lui-même, plutôt que de dire machin était très 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 courageux. C'est certain, donc même si vous le faites un peu subtilement, et en fait le truc c'est que vous allez, de toute façon, si c'est votre héros ou un personnage, enfin, ou quelconque personnage, vous allez le montrer qu'il est courageux. Vous allez le mettre en scène, vous allez lui mettre des mots dans la bouche, et ça va se voir. Donc, le dire par-dessus, au meilleur des cas, c'est une redite, au pire, c'est un peu lourdingue. Si vous le montrez pas, c'est carrément une faute, parce que genre, vous pouvez nous affirmer il est courageux, sinon on le trouve pas très courageux, c'est que vous vous êtes quand même un peu planté. Donc ce travail de caractérisation par l'exemple, vous allez devoir le faire de toute façon, donc c'est peut-être pas la peine d'en remettre une couche. Et en plus, le fait de montrer les choses va vous permettre d'amener un degré de subtilité que le fait de les dire, qui sera difficilement atteignable si vous vous contentez de les dire, sans être vraiment pour le coup hyper lourd. Typiquement, machin, il est courageux, mais est-ce qu'il est courageux mais quand même prudent? Est-ce qu'il est courageux et pas très malin, il fonce dans le tas? Et s'il fonce dans le tas, c'est parce qu'il est pas très malin, comme je viens de le dire, ou c'est parce qu'il a quelque chose à prouver, qu'il a des traumatismes quelconques, qu'il a des choses à régler et tout? Ça, c'est des choses qui vont vraiment pouvoir se montrer dans ses réactions, quand on se porte au secours de quelqu'un, dans le détail de ce qu'on fait, ça va se voir immédiatement si la personne qui se porte au secours prend soin d'elle, prend soin des autres autour aussi, ne met pas la personne qu'il essaie de sauver en danger en voulant la sauver, fait très attention à elle ou pas, ou alors il est plus concentré sur le fait de punir les méchants plutôt que d'aider la victime. C'est des choses qui vont vraiment se voir et qui sont très agréables à comprendre par soi-même en tant que lecteur. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui vont être révélées par les dialogues, par la posture, la manière, quand je dis la posture, c'est littéralement la posture, c'est comment votre personnage se tient physiquement, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, voilà, tout ça. Et je fais pas souvent de pub pour ma petite personne, mais là je vais me permettre de le faire. J'ai fait une masterclass pour une école en ligne qui s'appelle Écrire et Inspirer, alors qui est pas spécifiquement sur le show don't tell, mais qui est sur la caractérisation par les dialogues. C'est un sujet plus restreint et qui parle aussi de choses un petit peu plus variées que le show don't tell, mais c'est quelque chose de payant, donc en général j'en parle pas trop, mais si ça vous dit, j'ai eu des bons retours sur cette masterclass, donc j'en profite pour faire ma petite pub. Le show don't tell, ça va être aussi très intéressant, en fait, le fait de montrer les choses pour faire comprendre les sentiments des personnages. plutôt que de dire bah, « machin a peur, machin était très excité », si vous montrez que machin bah, ressent, enfin, comment, comme s'il était glacé à l'intérieur, ou si vous montrez que machin saute partout en souriant, bah, si vous montrez ces choses-là, les gens vont beaucoup plus partager les sentiments de la personne, les sentiments du personnage. Ça va vraiment permettre de susciter l'empathie. Le show d'intel peut être utilisé aussi pour poser des questions, pour les thématiques. Si vous êtes dans la tête de votre personnage, que vous montrez ce que ce personnage ressent, que vous montrez ses réactions de surprise ou ses réactions bah, d'excitation, encore une fois, ou ses réactions de crainte, si vous montrez ces choses, bah, votre lecteur, votre lectrice qui a déjà ressenti ces choses et qui les a déjà ressenties de cette façon va accompagner le personnage dans son ressenti, dans ses sentiments, dans ses questionnements. En tout cas, ça va susciter chez votre lecteur ou lectrice des questionnements similaires à ceux du personnage. Et si c'est pas les questionnements similaires, si votre lecteur se pose d'autres questions que le personnage, bah quand il va voir les réactions du personnage, il va y avoir un petit décalage avec ce que lui avait anticipé. Et ça fait aussi partie des questions que votre lecteur, que vous voulez que votre lecteur se pose. Ça va permettre de susciter l'empathie vis-à-vis d'un personnage qui réagit différemment de lui. Est-ce que ce personnage réagit différemment de lui, bah juste parce que ce sont deux personnes différentes et que tout le monde n'a pas les mêmes ressentis dans les mêmes situations, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose bah, d'un peu curieux qui se passe? Et pourquoi il réagit comme ça? Est-ce qu'il cache quelque chose? Voilà, bon, c'est vraiment des choses qui sont toujours plus intéressantes à faire ressentir. Ça marche aussi pour les descriptions, hein. Faut vraiment pas avoir peur d'utiliser les cinq sens. Qu'est-ce que la personnage voit, mais qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il ressent physiquement, qu'est-ce qu'il sent typiquement, bah, s'il sent une odeur iodée, ça va suggérer la mer. S'il sent une odeur d'humus, ça va suggérer la forêt. Et si vous conjuguez, différentes informations, différents ressentis sensoriels, vous allez générer une image dans la tête de votre lecteur qui va anticiper la révélation du lieu. Peut-être qu'à un moment, vous allez devoir donner des informations supplémentaires et employer les termes mer ou forêt, évidemment. Mais quand on découvre un lieu en tant que personne, on va... Enfin, c'est les informations, c'est ce qu'on ressent qui va nous donner des informations sur le lieu. Et donc, si vous commencez par donner ces informations, bah, tout de suite... Encore une fois, c'est plus immersif et votre lecteur va découvrir les choses au même rythme que votre personnage. Voilà, c'est vraiment un outil très puissant, le show don't tell, pour sa capacité à faire vivre une information plutôt qu'à recevoir une information brute. Ça permet de se mettre à la place du personnage, donc pour faciliter l'immersion, je l'ai dit et redit, et ça permet de créer de l'action, en fait, même dans des scènes calmes ou contemplatives, plutôt que de dire « y a ci, y a ça, y a ça », je ressens ci, je ressens ça, je perçois ci, je perçois ça, ça met beaucoup plus d'action dans vos scènes. Donc c'est formidable le show don't tell. Alors pourquoi ce conseil c'est de la merde? Eh ben déjà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je n'ai pas fait d'études de lettres, donc je pense que des personnes seraient plus expertes que moi, mais il me semble quand même que c'est une injonction qui est très moderne. Si vous regardez la littérature plus ancienne, voire même aussi récente que les grands classiques du 19e, bon, qui est pas récente, mais enfin quand même, qui est pas, moi je parle pas de trucs du Moyen-Âge, quoi, les gens utilisent beaucoup le tell. Ils vous disent beaucoup les informations, et c'est... Et ça empêche pas non plus d'être immergé dans sa lecture. C'est d'autres processus narratifs. Si je prends Alexandre Dumas, donc moi je suis une grande fan de Dumas, il a poussé même ça à l'extrême, donc il y a un côté un peu relou dans certains de ses livres, parce que clairement, bah, à l'époque, ils étaient payés à la ligne pour faire du feuilleton, beaucoup d'entre eux, et donc lui, bah, c'est vraiment, vraiment un piscine, comme on dit, mais des fois, il en joue. Il en joue pour utiliser, notamment, il joue avec beaucoup d'humour, Dumas, et il s'en sert pour favoriser l'immersion, pour favoriser la réflexion aussi chez son lecteur. Un gars comme Victor Hugo, C'est, alors lui, franchement, je suis pas une experte d'Hugo, est-ce que je vais peut-être me faire taper, mais je ne suis pas une grande fan de Victor Hugo, même si je ne peux qu'en reconnaître les immenses qualités. Mais lui, des fois, il pousse ça carrément à l'extrême. Vous avez de ses livres où il vous laisse, il vous raconte sa petite histoire, super, et il vous laisse limite en plein cliffhanger et il dit alors attendez les gars, là j'ai un truc à vous dire, donc je vais faire une pause. Je vais vous faire 60 pages, un chapitre entier, pour vous décrire tel truc, en vous expliquant carrément quoi penser. Et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Et je caricature, mais il le dit limite comme ça, honnêtement. C'est dans Notre-Dame de Paris qu'à un moment il s'arrête pour faire toute une réflexion sur la modernité avec autour de l'imprimerie. Bon, il lâche son histoire pour vous faire tout un chapitre là-dessus. Je vais être très intéressant d'ailleurs. Et il y a un autre moment où il fait la même chose, il vous fait tout un chapitre pour vous gratifier de sa fameuse description des rues de Paris, où il vous fait avant, après le baron Haussmann, donc vous voyez le truc là qu'il y a maintenant, bah, à l'époque c'était tel sentier, là où il y a ce boulevard, bah, en fait ça passait par telle rue et ça revenait par telle là, et il vous balance tout un tas de noms de rues. Donc, alors déjà si vous êtes parisien, si vous n'êtes pas parisien, je pense que même à l'époque vous êtes largué. Mais surtout, c'est des trucs qui pourraient très bien faire le choix, même en les disant, même en étant dans l'hôtel, qui pouvaient très, très bien faire le choix de vous donner ces infos au moment où le personnage passe dans les rues en question. Mais non, c'est Victor. Victor, il s'en fout, il avait envie de vous faire le guide du routard, et ben, il vous fait le guide du routard. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens diraient que c'est une faute narrative. Bon, moi, j'avoue que en tant que lectrice, j'ai pas été fan de celle-là, mais bon. Voilà, c'est Victor Hugo, il l'a fait, et visiblement, ça passe. Mais tout ça pour dire que, donc, quel que soit nos goûts personnels et quel que soit ce qu'on accepte d'un récit, il y a des tas de choses que vous pouvez faire en disant les infos. Et donc, bon, je ne vais pas m'attarder sur cette histoire de récits d'avant et versus les récits de maintenant. Juste comme j'ai dit, je pense que c'est quand même voilà, un conseil qui est un peu trop moderne pour être généralisé de la manière dont il est généralisé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en plus, ne pas utiliser le tel, ne pas dire les choses, c'est vraiment pas valable pour tous les récits, du tout, du tout. Typiquement, sur des récits d'humour, des fois, ça va être bien aussi de dire les choses, de poser les termes. Sur la satire, notamment, la satire, des fois, a besoin... a besoin de poser les choses. Par exemple, si on part sur des récits, si on se met en tant que conteur d'une histoire un peu traditionnelle, typiquement, en fait, là, je vais vous conter une histoire de tel temps où il se passait ci et il y avait telle famille royale et vous décrivez les choses et ça marche très bien, c'est très immersif parce que même si on n'est pas dans la tête des personnages, on est dans la tête du conteur, on accompagne le conteur qui nous raconte les choses, même de son point de vue un peu extérieur. Typiquement, dans le même genre, il y a les récits, alors j'allais dire de témoignages, c'est pas des récits de témoignages, mais c'est des récits fictifs où on prend le point de vue d'un témoin des événements, et ce témoin va vous dire, quand j'étais jeune, il s'est passé ça, et maintenant on pense tel truc et tel truc, mais je peux vous dire qu'à l'époque, on était plutôt dans telle idée, et moi, voilà ce que j'en pense maintenant, et voilà ce que j'en pensais à l'époque, et voilà ce qui se passait, et voilà pourquoi, et c'est absolument pas un problème. C'est, vous êtes en immersion avec ce récit dans sa subjectivité de témoin, et les infos sont totalement données pour beaucoup, et c'est très très bien comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez accompagner le narrateur dans ses questionnements. Mais ces questionnements sont clairement exprimés à partir des données qu'il vous donne, mais vous allez quand même l'accompagner là-dedans et vous poser des questions. Et ça aussi, c'est super immersif. Réagir à la manière dont quelqu'un pense, dont quelqu'un analyse, c'est immersif également. Donc voilà, le tel, comme on dit, ça peut être parfois très utile. Ça me rappelle une anecdote. J'avais croisé une personne, un gars qui était auteur amateur et qui essayait de se... qui espérait se faire publier. Et donc, j'ai pas vu ce que cette personne écrivait, mais par contre, ce gars était... obsédé, selon mon point de vue, il était obsédé par l'infodrop. Alors, l'infodrop, si vous ne savez pas ce que c'est le fait de, pour un auteur, de balancer une info de manière assez artificielle juste parce qu'on en a besoin. Pour pouvoir continuer ses récits, on a besoin que le lecteur sache tel truc, et donc on va donner le machin, et ça va, enfin on va donner l'info, et ça va pas être naturel, c'est très maladroit. Donc ça, c'est l'infodrop, quand vous donnez l'info de manière artificielle et maladroite. Et en fait, ce gars-là, dès qu'il voyait, enfin, je caricature un peu, mais j'avais l'impression que dès qu'il voyait une info donnée clairement, il était là, ah là là, au secours, infodrop. Mais en fait, des fois dans la vie, on se pose une question, on va donc poser notre question à quelqu'un qui a la réponse, cette personne va nous donner la réponse, clairement, et c'est très bien. Et c'est réaliste, et c'est pas spécialement pas immersif. Des fois, les infos, elles arrivent. J'avais même vu ce gars-là, une fois sur un des trucs que j'avais écrit moi, où il m'avait mis infodrop, et moi, j'avais même pas fait gaffe que j'avais donné une info. C'était juste, j'avais dû écrire un dialogue, et il se trouvait que quelqu'un donnait une info dedans, mais parce que ça m'était venu super naturellement. C'était même pas un truc dont j'avais spécialement besoin par là, tout de suite, là. Et lui, il avait son radar à tel. Il fallait être tout le temps en show d'un tel. Et si vous avez des personnages qui sont sans arrêt à tourner autour du pot juste pour montrer que vous êtes trop subtil, mais le résultat il va être super bizarre. Enfin, ça a intérêt à être bien justifié, parce que sinon on se dit, mais c'est, enfin, ces gens vivent dans un roman d'espionnage, qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi les gens sont pas francs, pourquoi ils peuvent pas juste dire les termes, enfin, le résultat va être ridicule si vous êtes tout le temps dans la suggestion. Et ça va être aussi artificiel, honnêtement, que de donner que ce fameux infodrop. Et ça peut même créer une autre grosse erreur narrative, qui est le faux suspense. C'est-à-dire que vous créez une espèce d'ambiance, une espèce de suspense, le lecteur attend quelque chose, et en fait, non, il n'y a rien. C'était juste pour vous manipuler. Donc voilà, donc c'est évidemment que des fois, juste, mais, sérieux, balancer les infos. Il y a une technique narrative, bon, alors qui est très 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 utilisé et au point d'en devenir un peu un trope. Pour moi, c'est pas spécialement un souci, parce que la raison pour laquelle c'est très utilisé, c'est parce que c'est en fait très réaliste et très naturel. C'est ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça la technique de l'idiot. J'ai vu des gens qui disaient la technique de l'ignorant, c'est plus sympa. Et en gros, c'est typiquement quand vous voulez faire une exposition de lieu ou de situation, vous balancez dans ce lieu ou dans cette situation un personnage qui ne les connaît pas ou qui n'en a pas les codes. Et donc forcément, bah, ce personnage, il va découvrir en même temps que le lecteur. Et donc, des fois, il va juste poser des questions, et on va lui donner les réponses, et c'est bien, c'est pas grave. Et d'autres fois, bah, il va commettre des impairs, et il va subir les conséquences de ses impairs, et puis il va se poser des questions, il va ajuster son comportement. Donc c'est quand même surtout une technique qui permet de dire les infos, mais ça permet aussi de montrer des choses. C'est une technique qui est vraiment très utile, et encore une fois très naturelle. Mais en plus, enfin, Le tel peut être aussi, enfin, peut être très chouette et très subtil dans plein de situations. Je vais donner un exemple c'est un roman qui s'appelle Les Vestiges du Jour. Donc, si vous avez vu le film, oui, c'est le roman qui a inspiré le film. C'est un roman de Katsuo Ishiguro, qui est un de mes auteurs préférés, auquel je ferai sûrement encore référence dans les podcasts à venir. Et en fait, dans Les Vestiges du Jour, ça raconte l'histoire, enfin, c'est un majordome anglais qui raconte sa vie, et je vais pas donner tous les détails parce que sinon je vais vous casser un petit peu le bouquin, mais sans aucun spoiler, c'est un narrateur non fiable. Donc ce qu'on appelle un narrateur non fiable, c'est comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire, mais en fait soit il vous ment, soit il se rend pas compte des choses, et la réalité est pas telle qu'il vous la raconte. Et dans tout le principe de ce bouquin, c'est vous avez tout ce que vous dit ce personnage, tout ce qu'il partage avec vous, et ce qu'il vous dit très très clairement en termes de situation, en termes de sentiments, en termes de tout. Et vous avez des actions derrière lui qui montrent qu'il est totalement dans le déni de certaines situations. Et alors là, il y a peut-être des gens qui vont me rétorquer que bah, c'est du show don't tell, parce que l'important, c'est ce qui est montré, c'est pas ce qui est dit. Et en fait, oui et non, parce que le principe d'un narrateur non fiable, c'est qu'on va pas vous dire tout de suite qu'il est non fiable, en général. On peut, mais c'est souvent, on va devoir s'en rendre compte. Et pour faire tout ça, bah, on a... Le fait est que l'immersion initiale c'est un personnage qui vous raconte les choses, qui vous dit ce qu'il pense, qui vous dit ce qu'il ressent, qui vous donne, qui vous dit ses analyses, et il vous dit toutes ces choses, il ne fait que les dire, et ça n'empêche en rien l'immersion, parce que c'est bien fait. En vrai, les... Dans les descriptions, j'ai dit que le show don't tell pouvait être très utile pour les descriptions, mais selon moi, les maîtres de la description, en fait, utilisent les deux. C'est ce grand classique qui... Enfin, c'est une stratégie narrative qui est assez connue, c'est que vous avez l'auteur qui vous décrit quelque chose. Il vous dit, bah là, la porte, elle est comme ça, la maison, elle est comme ça, et la déco, elle est comme ça. Et en fait, ce qui vous... raconte, c'est pas à quoi ressemble cette pièce ou à quoi ressemble cette maison. Ce qu'il vous raconte, c'est qui sont les propriétaires. Et ça donne plein d'infos, ça suggère plein d'infos sur leur statut social, sur leur positionnement vis-à-vis de ce statut social, sur ce qu'ils veulent montrer, sur ce qu'ils veulent pas montrer, sur leur goût, sur leur sensibilité, sur plein de choses. Donc les descriptions qui ont l'air... Il y a beaucoup de gens qui se plaignent des longues descriptions de certains auteurs, mais les alors après, voilà, on n'est pas obligé d'être sensible à ce genre de stratégie narrative, mais le fait est que les grands maîtres de la description font souvent des choses en réalité vraiment très subtiles et vont vous donner énormément d'infos. Encore comme je disais, hein, comme Katsu Ishiguro avec ce narrateur non fiable, il vous donne des infos, il vous dit des infos et ils parviennent à créer l'immersion avec ça, mais en réalité, ce qu'ils vous racontent, ce qu'ils vous font ressentir ou ce qu'ils vous font comprendre sont plus en filigrane. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais dire. Donc le show don't tell, bah oui, c'est super. Comme j'ai dit, je veux me répéter, hein, mais c'est un outil qui est vraiment très puissant pour faire vivre une information, pour créer du dynamisme, créer de l'action, créer de l'empathie, générer toutes ces choses-là. Mais évidemment, vous n'allez pas écrire tout un bouquin juste sur de la suggestion ou juste en montrant les choses. Vous pouvez, hein, mais il faut que ce soit justifié. En tout cas, faut pas en faire une espèce d'exercice de style où vous avez tellement peur de donner une info clairement que vous tournez autour du pot. Et honnêtement, ça devient complètement ridicule. Juste, on voit que vous essayez trop fort et c'est vraiment pas une chose que vous avez envie que se dise votre lecteur. Donc voilà, n'hésitez pas à user du show don't tell, mais pensez au pouvoir du tell, pensez au pouvoir du simple fait de donner les infos quand ça se justifie et vous devriez avoir un récit bien équilibré, clair et bien immersif et parfois très subtil.
Merci d'avoir écouté ce déconseil d'écriture. N'hésitez pas à partager les mauvais bons conseils qu'on vous a donnés en commentaire ou via la messagerie de mon site www.isabellebautian.com. Pensez à vous abonner et à liker, et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 euro sur ma page Ko-fi, ko-fi.com/isabautian. À très bientôt.